Colias s'appuya contre la haie d'un air grave. Il attendait l'arrivée de Tchestomassov. Depuis longtemps, il désirait le rencontrer. Il en avait beaucoup entendu parler par ses camarades, mais il affectait jusqu'ici une indifférence qui touchait au mépris quand on lui en causait. Il critiquait même ce qu'on lui en rapportait. Il désirait beaucoup intérieurement faire sa connaissance. Il y avait dans ce qu'on lui disait de Tchestomassov quelque chose de sympathique et d'attrayant. Ce moment était donc pour lui de la dernière importance. D'abord, il ne fallait pas paraître son inférieur et au contraire, lui faire montre d'indépendance. Assurément, il va penser que je n'ai que 13 ans et me prendre pour un gamin comme cela. Que lui importe donc toute cette marmaille? Je lui demanderai quand nous nous connaîtrons. Ce qui est mauvais, c'est que je sois de si petite taille. Poussicard est plus jeune que moi, et il me dépasse d'une demi-tête. Il est vrai qu'en revanche, mon visage prouve l'intelligence. Bon, je suis pas beau, je le sais bien, mais je n'ai pas l'air d'un sot. Et puis, il faut pas trop d'épanchement. Si je vais à lui les bras ouverts, il pensera peut-être. Oh, bah, ce serait dégoûtant s'il le pensait. C'est ainsi que se tourmentait Kolia, tout en s'arrangeant une pose indépendante. Ce qui le tourmentait le plus, c'était sa petite taille, et moins son dégoûtant visage que sa taille par trop exiguë. Depuis l'année dernière, il a fait une marque au crayon dans un coin de sa chambre pour marquer sa hauteur, et il vient se mesurer là tous les 2 mois avec une bien grande émotion. Hélas, c'est à peine s'il grandit. Et cela le met au comble du désespoir. Son visage était loin d'être dégoûtant. Il avait même une physionomie avenante, avec son teint pâle semé de petites taches de rousseur. Ses petits yeux gris et vifs avaient des regards audacieux et s'allumaient parfois d'un éclair sentimental. Il avait les pommettes un peu larges, les lèvres petites et très rouges. Son nez court se redressait fièrement. « J'ai pourtant le nez tout à fait Camus, » murmurait-il souvent en passant devant une glace. Et il s'éloignait indigné. Parfois, il se demandait même s'il avait le visage intelligent. Il ne serait pourtant pas juste de dire que Kolia était tout à fait absorbé par ses réflexions au sujet de son visage et de sa taille, bien au contraire. Il oubliait vite tout cela, et pour longtemps, dès qu'il avait tourné le dos à la glace, se donnant tout entier à la vie réelle, selon son expression. Alexei Tchestomassov arriva bientôt, se dirigeant vers Kolia d'un pas précipité. Celui-ci s'aperçut quelques pas à l'avance de l'air joyeux d'Alexei. Serait-il donc si content de me voir ? Pensa Kolia, non sans quelque satisfaction. Son étonnement augmenta encore en remarquant qu'Alexei, dans son empressement à venir à lui, n'avait même pas mis un paletot. Alexei tendit simplement la main à Kolia. « Ah, vous voilà! Combien vous étiez attendu de nous tous !» Il y avait une raison que je vous dirai tout à l'heure. Je suis bien aise, en tout cas, de faire votre connaissance. J'attendais depuis longtemps cette occasion, ayant beaucoup entendu parler de vous, fit Kolia légèrement ému. Mais nous nous connaissions déjà, et j'avais aussi beaucoup entendu parler de vous. Mais pourquoi êtes-vous venu si tard? Et comment cela va-t-il ici, je vous prie? Oh, Ilyusha va très mal. Il est perdu, certainement. Que me dites-vous? Oh, vous conviendrez, Tchestomassov, que la médecine est une tromperie, s'écria avec emportement Kolia. Mais Ilyusha se souvenait bien souvent de vous, et jusque dans son délire. On voit bien que vous lui étiez jadis très cher, avant l'affaire du couteau. Et puis, il y a encore une autre raison. Ah, est-ce que c'est votre chien ? Oui, mais oui, il s'appelle Pierre Svon. Et pas de Jutschka ? Fit Tchestomassov d'un ton à la fois interrogatif et suppliant. Diouchka est donc bien perdu. Oui, je sais que vous voudriez tous revoir Djouchka, répondit Kolia avec un sourire énigmatique. Bien, je vais tout vous dire, cher Stomassov, et vous expliquer l'affaire. C'est pour cela que je vous ai demandé de venir ici avant d'entrer. Ilucha est venu ce printemps dernier en classe préparatoire. Vous savez bien ce qu'est notre classe préparatoire, des enfants, des petits gamins. On a donc traquiné Ilyusha. Et pour moi, comme j'étais de deux classes au-dessus, j'ai vu cela de loin. Donc je remarque un petit garçon faible qui ne se soumet pas, mais va jusqu'à se battre avec les enfants, tout fier de cela, les yeux en feu. Moi, j'aime ces natures-là. Les enfants continuaient à le taquiner de plus en plus. Il avait par-dessus le marché un mauvais paletot, des pantalons courts et des bottines déchirées. Ce fut une raison de plus pour lui en vouloir. On l'humilia donc. Oh, c'est une chose que je n'aime pas. Aussi, je l'ai défendu et j'ai corrigé les autres, ce qui ne les empêchait pas de m'adorer, ces enfants, ajouta Kolia avec orgueil. D'ailleurs, j'aime bien les enfants. Même en ce moment, j'ai chez moi deux pigeons, et c'est à cause d'eux que je suis en retard. Donc, Ilyusha ne fut plus battu et passa sous ma protection. C'était, je vous l'ai dit, un garçon plein d'amour-propre, et pourtant, il m'obéit bientôt comme un esclave, et se soumit sans réplique au moindre ordre que je lui donnais, et il me vénéra comme un dieu. Pendant la récréation, il venait bien vite me trouver et nous nous promenions ensemble. De même le dimanche. On se moque dans notre lycée de voir un ami se fier si intimement avec un plus jeune, mais ce n'est là qu'un préjugé. Cela me plaît, cela suffit. Je l'instruis, je développe son intelligence. Et pourquoi ne pas le faire si cela me convient? Vous, par exemple, cher Stomassov, vous êtes lié avec ces enfants. C'est pour les développer et leur être utile. Je vous avouerai même que c'est le trait de votre caractère qui m'a le plus chez vous intéressé. Et bien, pour en revenir au fait, j'ai vu qu'il y avait chez cet enfant beaucoup de sentimentalité. Or, je suis depuis mon enfance ennemi de toute sentimentalité. J'ai vu encore chez lui des contradictions. Sa fierté, sa fidélité d'esclave envers moi, par exemple. Et encore, cette fidélité d'esclave et ses yeux étincelants qui ne veulent point céder, quand même nous devrions nous mettre en colère. Parfois, je lui exposais mes idées, et sans qu'il fût en désaccord avec moi sur ces idées, je m'aperçus qu'il m'en voulait, et tout simplement parce que je répondais avec froideur à sa tendresse. Donc, pour le contredire, je fus d'autant plus froid qu'il était plus expansif. J'ai agi ainsi avec lui parce que telle est ma conviction. Je voulais faire de lui un caractère légalisé, en faire un honnête homme, enfin. Vous comprenez le reste, n'est-ce pas? Or, je remarque qu'un jour, puis un autre, puis un troisième, Ilyusha est tout chagrin. Il ne s'agit plus alors de sentiments, mais bien de quelque chose d'autre, plus grave et plus élevé. Qu'est-ce que cela veut dire, me suis-je demandé? Je le questionne et voilà ce que j'apprends. Il avait, je ne sais comment, fait connaissance avec Smerdiakov, le laquais de feu votre père. Et ne voilà-t-il pas que ce laquais donna l'idée au petit sot de faire une stupide escapade, ou plutôt une action basse et sauvage, de prendre enfin un morceau de pain, de mettre dedans une épingle, et de le jeter à un chien dans la rue, à un chien affamé qui avalerait d'un coup le morceau, puis de regarder alors ce qui en arriverait. Il arrange un morceau de pain et le jette à la pauvre Jutchka, dont il s'agit maintenant. C'était un de ces chiens des rues, qui ne mangent pas souvent et hurlent au vent toute la journée. Est-ce que vous aimez ces hurlements, Chestomatov? Moi, je ne puis les souffrir. Vous devinez que le chien se jeta sur le pain, l'avala, tourna, hurla, puis se mit à courir et disparut toujours en criant. C'est ainsi, du moins, que me l'a conté Ilioucha lui-même. Il pleurait à chaudes larmes en me faisant cette confidence. Il me mit les bras autour du cou et répéta en tremblant: Elle court et elle crie. Ce tableau avait sur lui une grande impression. Il avait du remords. Je pris la chose au sérieux. Déjà auparavant, je voulais gronder, en sorte que je pris un air indigné et que j'exagérais la chose. Tu as fait là une mauvaise action, lui dis-je. Tu n'es qu'un misérable. Certes, je n'en parlerai à personne, mais je romps toute relation avec toi. Je veux étudier l'affaire et le ferai connaître le résultat par Smurov. C'est ce petit, vous savez, qui est venu avec moi et qui a toujours m'a été très très attaché. Mes paroles le frappèrent terriblement, et déjà, je vous l'avoue, je sentais que peut-être j'avais été trop loin. Mais que pouvais-je faire puisque je le pensais? Le lendemain, j'envoie Smurov pour l'avertir que je ne lui parle plus, car c'est ainsi qu'on rompt chez nous ses relations avec un camarade. J'avais l'intention de l'éprouver pendant quelques jours, puis de lui tendre la main en voyant son repentir. C'était du moins ma ferme intention. Eh bien, que pensez-vous qu'il fit? Après avoir écouté Smurov, ses yeux s'allumèrent. Dis de ma part à Krasotkin, s'écria-t-il, que maintenant je vais jeter du pain avec des épingles à tous les chiens, à tous, tous, t'entends-tu? L'esprit de révolte s'empare de lui, me dis-je tristement. Il faut le chasser. À partir de ce moment, j'affectai pour lui le plus profond mépris, me détournant en souriant ironiquement chaque fois que je le rencontrais. Et c'est justement vers cette époque que son père fut traîné par la barbe dans la rue et ne sut pas venger cet affront. Cet événement le rendit tout à fait irritable. Voyant que je l'avais abandonné, ses camarades le poursuivirent de leur ironie au sujet de l'aventure de son père. Il s'ensuivit des batailles que je regrette beaucoup, car je crois bien qu'une fois on l'a tout à fait meurtri. Un jour, à la sortie de la classe, il se jeta sur nous tous. Oh, je me trouvais à 10 pas de lui et je le regardais tranquillement. Je vous jure que je ne me souviens aucunement d'avoir ri en ce moment-là. J'avais même pour lui une grande pitié et peu s'en eût fallu que je le prisse sa défense. Et tout à coup, nos regards se rencontrèrent. Je ne sais ce qu'il vit dans mes yeux, mais il saisit son canif, se jeta sur moi et me l'enfonça dans la cuisse droite. Je ne bougeais pas, et pourtant, je suis parfois brave. Chestomazov. Je me contentais de le regarder fixement avec mépris, comme pour lui dire: Ah, tu voudrais peut-être recommencer pour l'amitié que j'ai eue pour toi. Eh bien, je t'attends. Il ne recommença pas, et n'y tenant plus, il jeta son canif, se mit à sangloter et se sauva. Je n'ai rien dit de cet avare. J'ai commandé aux autres de n'en rien dire pour qu'elle n'arrive pas aux oreilles de l'autorité. Je n'ai même pas avoué à ma mère, simplement lorsque la plaie fut cicatrisée. Ce n'était d'ailleurs qu'une égratignure. C'est ce même jour-là qu'il a jeté des pierres aux camarades et vous a mordu le pouce à vous-même. Dans quel état il était, vous pouvez juger. Que fallait-il que je fisse? J'avais agi sottement. Et quand il est tombé malade, je n'ai pas été lui pardonner, c'est-à-dire faire la paix avec lui, et je m'en repens. Il est vrai qu'il y avait de ma part une raison particulière. Voilà, vous savez maintenant toute l'histoire. J'avoue quand même que je n'ai pas bien agi. Comme c'est dommage, s'écria Chestomazov, de n'avoir pas connu plus tôt vos relations. Autrement, je serais déjà venu vous trouver pour vous amener chez lui. Vous me croirez si vous voulez, mais même dans son délire, il parlait de vous et vous ne savez pas combien vous lui êtes cher. Est-il donc possible que vous n'ayez pas retrouvé cette Jouchka? Son père et tous ses camarades l'ont cherché dans toute la ville. 3 fois il a répété à son père, tout malade et désolé, « Papa, je suis malade parce que j'ai tué Jouchka. C'est Dieu qui m'a puni. » Et il était impossible de l'arracher à cette pensée. Si seulement on pouvait trouver Jouchka et lui montrer qu'elle vit, oh, je crois qu'il ressusciterait de joie. C'est en vous que nous avons mis notre confiance. Mais dites-moi, pour quelle raison on espérait que ce serait moi et non pas un autre qui retrouverait Jouchka ? Demanda Kolia avec une grande curiosité. Mais on disait que vous la cherchiez et que vous la meneriez quand vous l'auriez trouvée. Smurov nous avait dit quelque chose comme ça. D'ailleurs, nous tâchons de persuader à Ilucha que Jouchka est vivante et qu'on l'a vue quelque part. Ses camarades lui ont apporté je ne sais d'où un lièvre vivant. Mais il n'a fait que le regarder en souriant et a demandé qu'on veuille bien le lâcher dans les champs, et nous l'avons fait. Son père lui a apporté aujourd'hui un jeune chien de race, pensant que cela le consolerait, mais la vue du chien n'a fait qu'ajouter à sa tristesse. Dites-moi donc encore, Chestomassov, ce que c'est que son Pierre. Je ne le connais pas. Que serait-il d'après vous? Un bouffon? Un paillasse? Non, 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 il y a des gens qui sentent profondément, croyez-moi, mais qui sont des hommes abattus. Leur bouffonnerie est quelque chose comme une amère ironie qui s'adresse à ceux auxquels ils ne peuvent dire franchement la vérité, par suite d'une habitude de timidité humiliante. Croyez, Krasovskine, qu'une telle bouffonnerie est parfois bien tragique. Tout ce qui lui reste aujourd'hui sur la terre s'est concentré en Ilucha. Et si Ilucha meurt, il en perdra la raison, ou bien se suicidera. J'en suis presque certain maintenant, quand je l'examine de près. Je vous comprends, Chestomassov. Je vois que vous connaissez l'âme humaine, ajouta Kolia, avec un accent de conviction sincère. Et moi, en vous voyant avec le chien, j'ai pensé que c'était Jouchka que vous ameniez avec vous. Attendez, Chestomassov, peut-être trouverons-nous Jouchka. Mais celui-ci est Pierezvon. Je vais le faire entrer dans la chambre et il distraira plus peut-être Ilyusha que son petit chien de race. Attendez, Chestomassov, vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Oh mon Dieu, mais je vous retiens ici, fit tout à coup Kolia. Vous êtes en jaquette par un tel temps, et je vous retiens, oh, comme je suis égoïste. Ah, nous sommes tous des égoïstes, Chestomassov. Non, ne vous inquiétez pas, il fait froid, il est vrai, mais je n'ai pas peur du froid. Il serait bon de rentrer. À propos, comment vous nommez-vous donc? Je sais que vous vous nommez Kolia, et puis... Nikolai. Kolia est un diminutif de Nikolai Ivanovitch Krasotskin, ou comme on dit dans les actes, fils de Krasotskin, dit en riant Kolia, en ajoutant aussitôt. Mais certes, je méprise mon nom de Nikolai. Et pourquoi cela? C'est trivial. Vous avez 13 ans? Demanda Chestomassov. Oh, c'est-à-dire 14, je les aurai dans 15 jours. C'est pas loin, comme vous voyez. Eh bien, Chestomassov, je vais vous avouer tout d'abord une faiblesse qui vous fera voir tout de suite quel est mon caractère. Je n'aime pas qu'on me demande mon âge. Je ne puis même pas le supporter. Et puis, on répand à mon sujet cette calomnie que j'ai jouée la semaine dernière aux brigands avec ceux de la classe préparatoire. Pour avoir joué, c'est exact, mais avoir joué pour mon plaisir, c'est tout à fait une calomnie. J'ai lieu de croire que ce bruit est arrivé jusqu'à vous. J'ai donc joué pour ces enfants qui, sans moi, ne pouvaient rien trouver d'amusant. On aime bien, chez nous, répandre ces bêtises. C'est la ville des commérages, je vous assure. Mais quand ça aurait été pour votre plaisir, je ne vois pas où serait le mal. Oh, pour moi! Vous mettriez-vous pas à jouer aux chevaux, vous, par exemple? Oh, vous raisonnez comme cela, répondit Alexeï avec un sourire. Et pourtant, au théâtre, ce sont des adultes et on y représente les aventures de héros, avec des brigands et des batailles. N'est-ce pas la même chose en son genre? Le jeu de la guerre ou des brigands pour des jeunes gens, pendant la récréation, c'est comme l'enfance de l'art qui fait naître dans les âmes jeunes le goût de l'art. Et bien souvent, ces jeux sont plus logiquement composés que les représentations théâtrales. Il y a toutefois cette différence qu'on va voir jouer les acteurs au théâtre et que dans ces jeux-là, les jeunes gens sont acteurs eux-mêmes. Cela est plus naturel. C'est bien votre pensée, votre conviction, demanda Kolia avec un regard scrutateur. Mais savez-vous que vous émettez là une pensée fort curieuse, que j'approfondirai en rentrant chez moi? Je m'attendais bien, je vous avoue, à apprendre de vous quelque chose. Je suis venu me mettre à votre école, chez Stomassov, conclut Kolia d'une voix expansive. « Et moi, la vôtre ?» répondit Alexeï en lui serrant la main. Kolia a été fort satisfait de son interlocuteur. Il se trouvait frappé d'être avec lui sur le pied de l'égalité et de ce qu'il voulait bien lui parler comme un grand. « Je vais tout à l'heure vous montrer des tours, Chestomazov. Quelque chose qui ressemble à une représentation théâtrale, » fit Kolia avec un rire nerveux. C'est pour cela que je suis venu. Entrons d'abord chez le maître de la maison. Tout le monde laisse le par-dessus au vestibule, car dans la chambre on est à l'étroit et il fait chaud. Oh, je ne rentrerai qu'un instant, et je puis garder mon par-dessus, dit Kolia en franchissant le seuil. Pierre-Svon restera ici dans le vestibule et fera le mort. « Ici, Pierre-Svon, couche-toi et fais le mort. »« Vous voyez, le voilà mort. »« Moi, je vais entrer examiner la place. »« Et quand le moment sera venu, je sifflerai Pierre-Svon et vous le verrez se précipiter dans la chambre comme un fou. »« Il faut seulement que Smurov n'oublie pas alors d'ouvrir la porte. »« Je prendrai mes mesures et vous verrez ses tours. » L'appartement qu'habitaient le capitaine Snirilev et sa famille était plutôt une isba qu'un appartement, tant il était encombré par les meubles et les gens. On y voyait un grand poêle russe, et du poêle à la fenêtre était tendue une corde où pendaient des chiffons de toutes sortes. Le long des murs, à droite et à gauche, se trouvaient des lits recouverts de tricots. Il y avait sur le lit de gauche 4 coussins couverts d'indiennes, plus petits les uns que les autres. L'autre lit n'avait qu'un très petit coussin. Un coin de la chambre était séparé par un rideau, ou plutôt par un drap tendu sur une corde. On apercevait, derrière ce rideau, un troisième lit arrangé sur un banc et une chaise. Une simple table en bois blanc était près de la fenêtre du milieu, car il y avait 3 fenêtres aux carreaux verts et assombries par le temps et la poussière. La chaleur était très grande. Il y avait beaucoup de monde dans la chambre. C'étaient des camarades d'Ilyusha. Et bien qu'ils eussent pu affirmer le contraire, c'était bien Alexeï Chestomassov qui les avait réunis pour faire la paix avec Ilyusha. L'art de Chestomassov, en cette circonstance, avait consisté à les amener là, tous, l'un après l'autre, comme par un effet du hasard. Ce concours d'amis apportait un grand soulagement au petit malade. La tendre amitié, la compassion même de tous ses enfants, ses ennemis d'hier, le touchaient au dernier point. Il ne manquait que Krasotkine et son absence lui pesait lourdement sur le cœur. Cet épisode de sa vie où il s'était jeté, le couteau à la main, sur Krasotkine était le plus amer des souvenirs du malade, et surtout parce que Krasotkine avait été jadis son unique ami et son défenseur. L'intelligence Mourov, qui était venue le premier faire la paix avec Ilyusha, se doutait bien de cela. Malheureusement, quand il lui dit à Krasotkine, avec bien des détours, qu'Alexei désirait le voir pour une affaire importante, celui-ci ne le laissa pas achever et dit à Smurov de transmettre ceci à Alexei, qu'il savait ce qu'il avait à faire, qu'il ne demandait de conseil à personne et que s'il allait voir le malade, il le ferait quand il voudrait, ayant ses raisons pour cela. Cette réponse avait été transmise 15 jours avant ce dimanche, et c'est pourquoi Alexei n'avait pas été chez Kolia comme il en avait l'intention. Deux fois, pourtant, il avait envoyé Smurov chez Krasotkine, et chaque fois, il avait été répondu par un refus absolu et plein d'impatience. Kolia avait même ajouté que si Chestomassov venait le chercher lui-même, il n'irait jamais chez Ilyusha et qu'il tenait à ne pas être importuné davantage. Smurov lui-même ignora jusqu'au dernier jour que Kolia avait résolu de rendre ce dimanche visite à Ilyusha, et ce n'est que la veille au soir que Kolia lui avait dit tout à coup de l'attendre à la maison le lendemain matin pour aller avec lui chez les Snyegirev. Mais il lui avait surtout recommandé de n'en parler à personne, car il désirait arriver sans être attendu. Smurov avait obéi, mais il n'avait eu l'espérance de lui voir amener Jouchkechka qu'en raison de quelques paroles échappées par hasard. « Bon, ce sont tous des ânes pour ne pouvoir trouver un chien s'il est vivant. » Pourtant, quand Smurov fit part à Krasotkine de ses idées relatives à ce que le chien n'était peut-être pas perdu, son ami lui avait répondu d'un ton fort irrité « Mais il faudrait que je fusse un âne pour chercher dans la ville les chiens des autres quand j'ai mon Piresvon. Et puis il faut être fou pour penser qu'un chien qui a avalé une épingle puisse être encore en vie. Tout cela n'est que de la sentimentalité. » Comment donc Alexei Chestomassov avait-il fait la connaissance d'Ilyusha? Était-il devenu l'intime de sa famille? Un jour qu'Alexei, après avoir passé la grande place, s'engageait dans la ruelle Mikhailovska, il aperçut au bas du petit pont un groupe d'écoliers. C'étaient de jeunes gamins de 9 à 12 ans, tout au plus. Ils sortaient de classe et retournaient à la maison, portant leurs sacs sur le dos ou en bandoulière. Ils étaient vêtus indifféremment de jaquettes et de pardessus. Quelques-uns avaient des bottes à haute tige avec des plis, de celles-là dont s'enorgueillissent certains enfants gâtés par des parents riches. Le groupe d'enfants parlait de quelque chose avec une grande animation et il était évident qu'on tenait conseil. Alexei ne passait jamais indifférent auprès des enfants. À Moscou déjà, il les fréquentait souvent. Il aimait en particulier les bambins de 3 ans. Mais les écoliers d'une douzaine d'années étaient aussi ses amis. Aussi, bien qu'il fût préoccupé en ce moment, il eut envie d'aller près d'eux et d'engager les conversations. Tout en s'approchant, il examinait leurs visages roses et animés, et il s'aperçut que tous, ou à peu près, avaient des cailloux dans les mains. À 30 pas du groupe et près d'une haie se trouvait un autre gamin. C'était aussi un écolier portant le sac sur l'épaule et dont la taille annonçait 10 ans, moins peut-être. Il avait le teint pâle et l'air maladif. Ses petits yeux noirs étincelaient. Il regardait avec une grande attention les 6 autres écoliers sortis avec lui de l'école, mais avec lesquels il paraissait en mésintelligence. Alexei s'approcha, et s'adressant à un gamin aux joues roses et qui avait un veston noir, il lui dit « Quand j'avais aussi un sac comme le vôtre, on le mettait du côté gauche pour qu'on y puisse prendre aisément avec la main droite. Vous le portez-vous du côté droit? Cela est peu commode. » Et sans rien de préconçu, Alexeï commença la conversation sur cette observation toute spéciale, qui était cependant la meilleure chez un homme pour obtenir de suite la confiance d'un enfant et surtout d'un groupe d'enfants. Il faut avec eux débuter avec un air sérieux et important, comme si on était sur le pied d'égalité. Alexeï savait cela d'instinct. « Ben, il est gaucher !» répondit un autre gamin qui paraissait avoir environ 11 ans et qui avait très bonne mine. Les autres, curieusement, fixèrent aussitôt leurs yeux sur Alexeï. « Il sait aussi lancer des pierres de la main gauche !» fit un troisième. Justement, à cet instant, une pierre tomba au milieu du groupe en effleurant le gaucher. Mais elle tomba plus loin, sans toucher personne, bien que lancé par une main adroite et énergique. C'était le gamin près de la haie qui avait envoyé cette pierre. « Vise-le bien et attrape-le, Svourov !» s'écrièrent les écoliers. Svourov, le gaucher, n'avait pas attendu l'invitation et riposta tout de suite. Il envoya un caillou à son adversaire, mais sans l'atteindre. L'autre renvoya une pierre dans le groupe, et ce fut Alexeï qui l'a reçu douloureusement dans l'épaule. Bien qu'il y eût 30 pas de distance, on voyait cependant que les poches du petit étaient remplies de pierres. C'est vous qui l'a visé, c'est exprès qu'il l'a lancé sur vous. Vous êtes chez Stomassov, s'écrièrent en riant les gamins. Eh bien, feu, allez, tous ensemble. 6 pierres partirent du groupe en même temps. Une pierre toucha le gamin à la tête et le renversa. Mais il fut vite debout, il se mit à riposter avec rage dans la direction du groupe. D'un côté et de l'autre s'engagea une fusillade nourrie, et l'on put voir que plusieurs des gamins avaient aussi dans leur poche une provision de pierres. « Mais que faites-vous là? N'avez-vous pas honte, messieurs? 6 contre 1, mais vous allez l'assommer !» Il quitta vivement le groupe en s'exposant aux pierres et protégeant de son corps le gamin qui était près de la haie. 3 ou 4 des gamins s'arrêtèrent un instant. « C'est lui qui a commencé le premier !» dit d'une voix un enfant irrité à un gamin en blouse blanche. « Ça vaut rien. Tout à l'heure dans la classe, il s'est jeté un coup de canif sur Krasotkin et l'a blessé jusqu'au sang. Krasotkin n'a pas voulu rapporter, mais il faut lui donner une bonne leçon. »« Mais pourquoi l'a-t-il fait? Ne l'avez-vous pas exaspéré lui-même? Tenez, voilà encore qu'il vous envoie une pierre dans le dos. Il vous connaît bien, » firent les enfants. « C'est à vous qu'il en veut maintenant, et plus à nous. » Alors, encore une fois, tous ensemble. Là, on ne rate pas Smurov. Et la fusillade recommença, plus dangereuse cette fois. Le gamin, près de la haie, reçut une pierre en pleine poitrine. Il jeta un cri, puis se mit à pleurer et s'enfuit en remontant la rue. Ah, il a peur cette fois, il se sauve. Votchalka ! S'écriait-on dans le groupe. Vous savez pas encore, chez Stomassov, quel canaille il fait. Le tuer ne serait pas assez, répéta le gamin au veston, l'œil enflammé. C'était celui qui paraissait le plus âgé du groupe. Et qu'est-ce qu'il fait? Demanda Alexeï. Est-ce qu'il rapporte ou quoi? Les gamins se regardèrent entre eux avec un sourire. Vous allez, je crois, dans la même direction que lui, eh bien, rattrapez-le. Vous voyez, il s'est arrêté et vous attend. Il vous regarde, répétèrent les autres. Demandez-lui donc s'il a eu une bolchalka de bain toute défaite. Entendez-vous, demandez-lui ça. Un rire général accueillit ces paroles. Alexeï regardait les enfants, qui le regardaient aussi. « N'y allez pas, il va vous faire du mal !» s'écria Smurov. Messieurs, je ne lui parlerai pas de Bolchalka, car c'est probablement avec cela que vous l'irritez. Mais il me dira pourquoi vous le haïssez pareillement. »« C'est cela. Demandez-le-lui, demandez-le-lui » firent en riant les gamins. Alexei passa le petit pont et se dirigea en suivant la haie du côté du gamin si détesté. « Prenez garde !» criaient les enfants derrière lui. « Il n'aura pas peur de vous et vous enverra aussi un coup de couteau sans crier gare, comme il l'a fait à Krasotkin. » Le gamin l'attendait sans bouger. Quand Alexei fut plus près, il aperçut un enfant qui paraissait avoir 9 ans tout au plus. Il était chétif et de petite taille. Sa figure était longue et pâle, ses yeux étaient grands et sombres. Et il regardait Alexei d'un air méchant. Il portait un pardessus très usé qui n'était plus à sa taille. Les manches trop courtes laissaient voir ses bras nus. Son pantalon avait au genou droit une large pièce, et l'on voyait à l'extrémité de sa botte, à l'endroit du pouce, un grand trou mal dissimulé avec de l'encre. Les deux poches de son pardessus étaient bordées de pierre. Alexei s'arrêta devant lui à 2 pas, en l'interrogeant du regard. Le gamin, devinant au regard d'Alexei qui n'était pas venu dans une intention hostile, quitta son attitude provocante et lui adressa le premier la parole. « Je suis seul, ils sont 6. Et tout seul, je les battrai !» s'écria-t-il, les yeux flamboyants. « Une pierre a dû vous frapper en vous faisant beaucoup de mal, » remarqua Alexei. « Oui, mais moi j'ai un Tasmourov à la tête !» fit l'autre. Ils m'ont dit là-bas que vous ne connaissiez et que vous m'aviez jeté une bière parce que vous m'en voulez de quelque chose, dit Alexei. Le gamin jeta sur lui un regard triste. Ben, vous connaissez pas? Me connaissez-vous? Demanda de nouveau Alexei. Ben, fichez-moi la paix, répondit le gamin d'un air irrité, mais sans bouger de place, comme s'il attendait quelque chose. Et de nouveau, il le regarda en dessous. « C'est bien, je m'en vais. Seulement, je ne vous connais pas et je ne viens pas pour vous irriter. Ils m'ont bien dit le moyen de le faire, mais je ne veux pas m'en servir. Adieu. »« Moine en culotte !» s'écria le gamin, sans quitter Alexei de ses yeux méchants et provocants. Et il prit position en prévision de ce qu'Alexei allait se jeter sur lui. Mais celui-ci se retourna, regarda encore le gamin et s'en alla. À peine avait-il fait 3 pas qu'il sentit une pierre l'atteindre fortement dans le dos. « Alors, c'est par derrière que vous attaquez. Ils m'ont donc dit la vérité en m'affirmant que vous frappiez par derrière, » dit Alexei en se retournant. Mais cette fois, le gamin furieux lui envoya une seconde pierre droit au visage. Alexei eut heureusement le temps de parer avec son bras, et la pierre l'atteignit au coude. « Mais vous n'avez donc pas honte? Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? » s'écria-t-il. Le gamin, toujours silencieux et provocant, s'attendait à ce qu'Alexei se fût jeté sur lui. Mais voyant qu'alors même il ne le faisait point, il fut pris d'une rage de bête fauve, bondit de sa place et se jeta sur Alexei si rapidement que ce dernier n'avait pas eu le temps de faire un mouvement avant que le gamin, baissant la tête et lui saisissant de ses 2 mains la main gauche, lui prit le médium entre ses dents. Il ne lâcha pas prise pendant près de 10 secondes. Alexei poussa un cri de douleur en s'efforçant de dégager son doigt. Enfin, le gamin le lâcha et revint se camper devant lui. Le doigt d'Alexei était entamé profondément et jusqu'à l'os. Le sang avait jailli. Le jeune homme prit son mouchoir et enveloppa son doigt blessé en le serrant fortement. Cette opération dura presque 1 minute, pendant laquelle le gamin resta à la même place, attendant. Enfin, Alexei jeta sur lui son doux regard. « Allô, c'est bien, lui dit-il. Vous voyez quel mal vous m'avez fait? Cela vous suffit, n'est-ce pas? Dites-moi maintenant pourquoi vous m'en vouliez. » Le gamin le regarda tout surpris. Bien que je ne vous connaisse pas du tout et que je vous voie pour la première fois, continua Alexeï de sa voix tranquille, je ne puis croire que je ne vous ai rien fait, car vous ne vous seriez pas vengé de moi si cruellement. Dites-moi donc ce que j'ai fait et quelle est ma faute à votre égard. Au lieu de répondre, le gamin se mit à pleurer à haute voix et se sauva. Alexeï le suivit à pas lents, dans la même direction, et longtemps encore il vit le gamin courir au loin, sans se ralentir ni détourner la tête, et toujours en pleurant. Il décida donc de le retrouver quand il en aurait le temps, et de résoudre une énigme qui l'avait vivement frappé. Ce fut le hasard qui apporta à Alexeï la solution de l'énigme. Il se trouvait un jour dans le salon de Katerina Ivanovna, la fiancée de son frère aîné Dimitri. « J'ai un grand service à vous demander, Alexeï Fiodorovitch, » lui dit tout à coup celle-ci en lui tendant 2 billets de 100 roubles. Katerina Ivanovna s'efforçait en lui parlant de donner à sa voix un ton calme et naturel. « Il y a quelques jours, Dimitri Fiodorovitch a commis une action injuste et même coupable. Il y a ici un lieu mal fréquenté, un traktir où il a rencontré ce même capitaine en retraite que votre père employait pour certaines affaires d'argent. On ne sait pourquoi Dimitri Fiodorovitch eut une discussion avec ce capitaine et devant tout le monde, il le prit par la barbe, le conduisit jusqu'à la rue dans cette position humiliante, et longtemps encore il le traîna ainsi. On m'a raconté que le fils de ce capitaine, qui est élève à l'école de la ville, un tout jeune enfant, assistait à ce spectacle, courait près de son père et pleurait à chaudes larmes, en suppliant tout le monde de le défendre. Personne n'écouta l'enfant et l'on se moqua de lui. « Pardonnez-moi, Alexeï Fiodorovitch, mais je ne puis me souvenir sans une émotion pénible de cette action indigne, une action que Dimitri Fiodorovitch a seulement pu commettre dans la colère et dans la passion. Je n'ai même pas la force de vous raconter tout cela, je m'y embrouille. J'ai pris des renseignements sur cet homme humilié et j'ai appris qu'il est très pauvre. Il s'appelle Sniegirev. Il a commis je ne sais quelle faute étant au service pour laquelle on l'a mis à la retraite. Il a une femme folle, 2 enfants malades, et il est tombé avec eux dans la plus profonde indigence. Depuis longtemps il habite notre ville. Il a fait jadis des écritures, mais il n'a plus maintenant aucun travail. Alors j'ai pensé à vous. Je ne sais pas si je m'explique bien. « Je voulais vous prier, Alexeï Fiodorovitch, mon bon Alexeï Fiodorovitch, d'aller le trouver, d'entrer chez ce capitaine sous un prétexte quelconque, et délicatement, avec prudence, comme vous seul savez le faire, Alexeï rougit, de lui faire accepter ce secours de 200 roubles. Il acceptera certainement, c'est-à-dire il faudra le persuader. » Ou bien, non, comment dire cela? Ce n'est pas, voyez-vous, un prix pour acheter la paix et l'empêcher de porter plainte, comme il voulait le faire, mais simplement à titre sympathique, pour lui venir en aide. C'est moi, la fiancée de Dimitri Fiodorovitch, et non lui qui le fait. En un mot, vous ferez vous-même ce qu'il faudra. J'y serais bien allé moi-même, mais vous serez mieux que moi. Et il habite dans la rue Ozyomaya, dans la maison de Madame Kalbginkov. Faites cela pour moi, Alexeï Fiodorovitch. Bon, maintenant, je suis un peu fatigué. Au revoir. » Il y avait dans la commission de Katerina Ivanovna une circonstance qui avait extrêmement frappé Alexeï. Quand elle lui parlait du gamin, de l'écolier, fils du capitaine, qui pleurait et criait en courant auprès de son père, la pensée lui était venue que ce gamin devait être certainement celui-là même qui lui avait mordu le doigt quand il lui avait demandé en quoi il pouvait l'avoir offensé. Maintenant, pendant qu'il se dirigeait vers la maison du capitaine, il en était presque certain, et sans savoir pourquoi. Il n'eut pas beaucoup de peine à trouver dans la rue Ozyornaïa la maison de la dame Kalmykov. C'était une vieille maisonnette qui penchait un peu de côté, avec un seul étage et trois fenêtres seulement sur la rue. La cour de la maison était sale. Il y avait dans cette cour une vache qu'on laissait là toute seule. De la cour, on passait dans un vestibule. À gauche s'ouvrait la porte du logis de la vieille propriétaire qui y habitait avec sa fille, déjà vieille aussi. Je crois que toutes deux étaient sourdes. Quand Alexei eut demandé la demeure du capitaine et eut répété plusieurs fois sa question, l'une d'elles comprit enfin qu'on demandait son locataire et désigna la porte en face, qui conduisait dans une isba, car ce n'était qu'une simple isba que l'appartement du capitaine. Alexei prenait le loquet pour ouvrir, quand il fut frappé par le silence extraordinaire qui régnait de l'autre côté. Il savait, d'après le récit de Katerina Ivanovna, que le capitaine avait une famille. Ou bien ils dorment tous, ou bien, m'entendant venir, ils attendent que j'entre. Bon, il vaut mieux frapper d'abord. Il frappa. Quelques secondes de silence s'écoulèrent. Enfin, une voix forte, avec une mauvaise humeur feinte, cria de l'intérieur « Qui est là ?» Alexei ouvrit alors la porte et franchit le seuil. Il fut frappé tout d'abord par l'aspect misérable de cet intérieur. Il y avait sur la table un poêlon avec des restes d'œufs sur le plat, à côté un morceau de pain où l'on avait mordu, puis un litre contenant un reste bien mince d'eau-de-vie. Auprès du lit de gauche, sur une chaise, était une femme qui avait l'air d'une dame dans sa robe d'indienne. Son visage était jaune et maigre, ses joues étaient creusées profondément et trahissaient à première vue la maladie. Les regards de cette dame surprirent surtout Alexei. Ses regards étaient à la fois interrogateurs et hautains. Pendant que le visiteur s'expliquait avec le maître de la maison, elle ne les quittait pas de ses grands yeux foncés, regardant alternativement l'un et l'autre. Près de cette dame, dans l'angle de la fenêtre gauche, se trouvait une jeune fille au visage plutôt laid qu'agréable, aux cheveux roux et clairsemés, pauvrement vêtue et pourtant propre. Elle considérait Alexei avec méfiance. Il y avait encore auprès du lit une autre créature, et bien pitoyable, une jeune fille d'une vingtaine d'années, sans pied. Ses béquilles étaient posées près d'elle, entre le lit et le mur. Les yeux extrêmement beaux et bons de la jeune fille contemplaient Alexei avec une douceur tranquille. Devant la table, celui qui mangeait sans doute le reste d'œufs sur le plat, était un homme de petite taille, de 45 ans environ, maigriot et de faible constitution. Ses cheveux et sa barbiche étaient roux et rares, et avaient beaucoup de ressemblance avec une molchalka défaite. Cette comparaison et le mot de molchalka frappèrent tout de suite l'esprit d'Alexei. Sans doute c'était cet homme qui avait crié et qui était là, derrière la porte, car il n'y avait pas d'autre homme dans la chambre. En voyant entrer Alexei, il se leva vivement du banc où il était assis, et s'essuyant avec une serviette trouée, il se précipita à la rencontre de son hôte. « C'est un moine qui vient demander l'aumône pour son couvent. Alors, il a bien choisi son endroit, » dit à haute voix la jeune fille du coin de gauche. Mais l'homme se retourna à ces mots vers la jeune fille et lui répondit d'une voix où perçait l'émotion. « Non, Varvara Nikolaïevna, Ce n'est pas cela, vous n'y êtes pas. Permettez-moi donc à mon tour de vous demander qui vous amène en ces parages, dit-il en se tournant vers Alexeï. Alexeï examina attentivement son interlocuteur qu'il voyait pour la première fois. Il y avait en cet homme quelque chose de gauche, d'affairé, d'irrité. On voyait qu'il venait de boire, mais il n'était pas ivre. Son visage exprimait une sorte d'effronterie extrême et aussi, chose étrange, une visible lâcheté. Il avait l'air d'un homme qui a été longtemps obligé de se soumettre, qui a beaucoup souffert, mais qui s'est libéré enfin et qui veut se montrer. Il ressemblait encore à un homme qui voudrait bien vous frapper, mais qui comprend que c'est lui qui sera frappé par vous. Dans ses paroles, dans l'intonation de sa voix aigrelette, on trouvait une sorte d'humour et de bouffonnerie, tantôt caustique et tantôt craintive, mais qui ne gardait jamais de mesure et ne dissimulait toujours. Sa question sur les parages avait été posée comme par un homme en proie à la fièvre. Ses yeux étaient grands ouverts et il s'approcha si près d'Alexeï que celui-ci recula instinctivement. Il portait un veston de nankin de couleur sombre, très usé, très rapiécé et couvert de taches. Son pantalon était fait d'une sorte d'étoffe très mince, de couleur trop claire, et en dehors de toute mode, chiffonné par le bas et tellement ratatiné qu'il avait l'air d'un gamin grandi trop vite. « Je suis Alexeï Chestomassov. »« Mais je le comprends très bien, » répondit l'autre d'un ton sec et tranchant, en montrant qu'il connaissait déjà le nouveau venu. « Je suis, moi, le capitaine Snegirev. Je voudrais néanmoins bien connaître quel mobile... »« Mais je suis venu comme cela. » « À vrai dire, j'aurais désiré vous dire un mot, si vous le permettez. »« Dans ce cas, voilà la chaise, daignez prendre place. »« Car on disait dans les anciennes comédies, daignez prendre place. » Et le capitaine saisit rapidement une chaise, une simple chaise de bois, et la plaça au milieu de la chambre. Puis il prit pour lui une autre chaise, s'assit en face d'Alexeï, tout près, si près même que leurs genoux se touchaient presque. Nikolaï Ilitch Stiegirev, ancien capitaine dans l'infanterie russe, ayant eu beaucoup de malheur, mais capitaine tout de même. Je devrais plutôt dire capitaine des nets et non pas Stiegirev. Car ce n'est que dans la seconde partie de ma vie que j'ai commencé à pratiquer les S en parlant. On acquiert cela dans l'humiliation. C'est vrai, dit Alexeï avec un sourire. Seulement est-ce volontairement ou involontairement qu'on l'acquiert? Dieu m'est témoin que c'est involontairement. Oh, presque toute ma vie j'ai parlé sans ces S, puisque je suis tombé. Et eux, je suis relevé avec les S. C'est une force supérieure qui nous change. En somme, je vois que vous vous intéressez beaucoup aux questions modernes. Pourtant, comment donc ai-je pu vous inspirer tant de curiosité, car je vis dans un milieu où il est impossible de recevoir des visites. Je suis venu, précisément, au sujet de cette affaire. Précisément pour cette affaire, interrompit le capitaine avec impatience. « Oui, à propos de votre rencontre avec mon frère, Dimitri Fyodorovitch. »« Mais quelle rencontre ? Oh, ne serait-ce pas celle-là où il fut question de Motchalka, d'une Motchalka de bain ?» dit-il tout à coup en se rapprochant encore d'Alexeï, et cette fois au point de lui heurter les genoux. Ses lèvres se serrèrent au point que sa bouche ne faisait plus qu'un trait. « Mais de quel Motchalka parlez-vous ? » murmura Alexeï. « Mais c'est pour se plaindre de moi qu'il est venu, papa !» s'écria la petite voix du gamin qu'Alexeï avait rencontré. Cette voix parlait de derrière le rideau qui coupait le coin de la chambre. « C'est moi qui m'ai mordu le doigt !» Le rideau se tira, et Alexeï aperçut son jeune ennemi dans le coin, sous les icônes, sur sa couchette arrangée sur le banc et la chaise. Le gamin avait sur son lit son petit paletot et une vieille couverture ouatée. Il paraissait malade, et ses yeux en feu trahissaient la fièvre. Il regardait Alexeï sans crainte cette fois, comme s'il semblait dire « Bon, maintenant je suis à la maison et je n'ai pas peur que tu me touches. »« De quel doigt mordu s'agit-il ? » s'écria le capitaine en quittant sa chaise. « C'est à vous qu'il a mordu le doigt ? » ?»« Oui, c'est à moi. » Il se battait à coups de pierre avec des gamins. Il était seul contre 6. Je me suis approché. Il m'a alors jeté aussi une pierre, puis une seconde à la tête. Je lui ai demandé alors ce que je lui avais fait, mais pour toute réponse, il s'est jeté sur moi, et sans que je sache pourquoi, il m'a mordu le doigt, très douloureusement. « Oh, je veux le fouetter tout de suite, oui, oui, tout de suite. »« Non, mais je ne suis pas venu me plaindre. Je n'ai fait que vous raconter comment cela s'est passé. » Il me semble d'ailleurs qu'il est malade en ce moment. Et vous allez vraiment penser que j'allais le fouetter? Que j'allais tout de suite prendre Ilyusha et le fouetter là, devant vous, pour votre entière satisfaction? Mais est-ce qu'il vous faut que ça tout de suite? Et le capitaine se retourna vers Alexeï avec un geste comme s'il voulait se jeter sur lui. Je regrette beaucoup, monsieur, pour votre cher petit doigt. Mais avant que je fouette Ilyusha, ne voulez-vous pas que je coupe immédiatement devant vous mes 4 doigts pour votre pleine satisfaction? J'espère que 4 doigts suffiront à satisfaire votre soif de vengeance et que vous ne nous demanderez pas le 5e. Il s'arrêta tout à coup comme suffoqué. Chaque trait de son visage changeait et se convulsait, et son regard était devenu tout à fait provocant. Il paraissait en proie à un accès de rage. « Je crois maintenant avoir compris, » fit doucement Alexeï sans quitter sa chaise. « Votre fils est un bon fils qui aime son père, et il s'est jeté sur moi comme sur le frère de votre offenseur. »« Je comprends tout à présent, » répétait-il d'un air songeur. « Mais mon frère Dimitri Fiodorovitch s'est repenti de son action, j'en suis sûr. Et s'il pouvait seulement vous revoir chez vous, ou plutôt à l'endroit même de l'offense, il vous demanderait pardon devant tout le monde, si vous le désirez. »« C'est-à-dire, vous dites qu'il m'a arraché la barbe et que maintenant il n'a qu'à s'excuser pour que tout soit fini et moi satisfait. »« Non, bien au contraire. Il fera tout ce que vous voudrez, comme vous le voudrez. » De sorte que, si je demandais à son excellence de se mettre à genoux devant moi, dans ce même tractir qui a dans la capitale, au milieu de la place, il s'exécuterait? Oui, il se mettrait à vos genoux. Vous me comblez et me touchez jusqu'aux larmes. Je ressens profondément toute la générosité de monsieur votre frère. « Permettez-moi donc de me présenter tout à fait à vous, avec ma femme, ma fille et mon fils, mes rejetons. Si je meurs, qui les aimera? Pendant que je vis encore, qui donc, sinon eux, m'aimera, moi, être misérable? C'est une grande consolation que le Seigneur a donnée à des hommes comme moi, car il faut aussi que les hommes de mon espèce soient aimés. « Ah oui, mais c'est bien vrai !» s'écria Alexeï. Mais cessez donc enfin de faire la paillasse. S'il vient devant vous un imbécile, vous vous mettrez aussitôt en quatre devant lui ?» dit à son père, avec indignation et d'un geste de mépris et de dégoût, la jeune fille qui était près de la fenêtre. « Patientez un peu, Varvara Nikolaïevna. Laissez-moi suivre la filière !» lui dit le père d'un ton impératif, mais tout en l'approuvant du regard. Nous avons un caractère comme cela, nous, fit-il en s'adressant à Alexeï. Mais dans toute la nature, il ne voulait bénir, c'est-à-dire qu'il le faudrait dire au féminin. Elle ne voudrait pas bénir. Permettez-moi donc de vous présenter maintenant ma femme, Alina Petrovna, une dame sans pieds de 43 ans. Ses pieds marchent, mais pas trop. Elle est d'une classe inférieure. Alina Petrovna, désirez-vous? C'est Alexeï Fiodorovitch Estomazov. Levez-vous, Alexeï Fiodorovitch. Il lui prit le bras avec une force à laquelle celui-ci était loin de s'attendre et le contraignit à se lever. C'est à une dame que vous vous présentez. Il faut vous lever.
Mais ce n'est pas, maman, ce Chestomassoff, lequel... Mais non, son frère, qui brille des plus douces qualités. Permettez-moi, Alina Petrovna, permettez-moi, maman, et tout d'abord de baiser votre main.
Et respectueusement, tendrement même, il baisa la main de sa femme. La jeune fille, qui était près de la fenêtre, se détourna indignée de cette scène, tandis que le visage hautain et interrogateur de la femme s'attendrit tout à coup. « Bonjour, asseyez-vous, monsieur Chestomassov, » dit-elle. « Chestomassov, madame. Chestomassov. » « Nous sommes des simples, » dit-il tout bas à Alexeï. « Eh bien, Chestomassov ou autrement, qu'est-ce que cela me fait ?» Pour moi, c'est Chernomazov. Asseyez-vous donc. Pourquoi donc vous fait-il lever? Une dame sans pieds, il vous a dit. Mais non, j'ai bien mes pieds, mais devenu bouffi comme des casseroles, tandis que moi-même je desséchais. J'étais bien grasse jadis, et maintenant c'est comme si j'avais avalé une aiguille. « Nous sommes des simples, oui, nous sommes des simples, » souffla le capitaine.
« Papa, oh papa !» dit tout à coup la jeune fille bossue, restée jusque-là silencieuse, et elle couvrit ses yeux de son mouchoir.
« Bouffon !» fit grossièrement la jeune fille assise auprès de la fenêtre.
« Voyez-vous ce qui se passe chez nous ?» dit la maman en étendant les bras et en désignant ses filles. Ce sont comme des nuages qui passent. Les nuages s'en vont et de nouveau c'est notre musique. Avant, quand nous étions militaires, il venait chez nous beaucoup de monde. Je ne vous dis pas cela, petit père, à propos de cette affaire. Qui aime quelqu'un, qui l'aime. La femme du diacre est alors venue chez nous et dit « Alexandre Alexandrovitch est une bonne âme, mais... Anastasia Petrovna, qu'elle dit, est un rejeton de l'enfer. Eh bien, lui répondit, c'est suivant la façon qu'on estime quelqu'un. Quant à toi, tu es petite, mais tu sens bien mauvais. Eh toi, me répond-elle, tu dois rester dans l'obéissance. Oh, toi, vaurienne, à qui es-tu venu donner des leçons? « Moi, qu'elle dit, j'aspire de l'air pur et toi de l'air empesté. Demande donc alors que je lui réponds à tous les officiers si c'est moi ou nul autre qui a l'air d'impur. Et depuis ce temps-là, oh, cela me pèse sur le cœur tellement que la veille j'étais assise ici comme maintenant et je vois entrer le même général qui est venu ici pendant la semaine de Pâques. »
Et quoi donc, votre Excellence, lui dis-je, est-ce qu'une noble dame ne peut aspirer librement son air?
Oui, me répond-il, seulement il faut que vous ouvriez la porte et la fenêtre, car sans cela, l'air est pas bon ici. Mais voilà, ils sont tous comme cela. Mais qu'est-ce que ça leur fait, mon air? Les mots sentent plus faux avec cela. « Moi, dis-je, ne gâte pas votre air. Eh bien, je vais me faire faire des bottines et je m'en irai. Mes petits pères, mes chers petits pigeons, faites pas de reproches à votre propre mère. Nikolaï, mon petit père, n'est-ce pas moi qui l'ai comblé de bonheur? Et pourtant, il n'y a pour m'aimer que le petit Ilyusha quand il vient de sa classe. Hier, il m'a apporté une pomme. Pardonnez-moi, mes petits pères, mes chers petits pigeons, pardonnez à votre propre mère. Pardonnez-moi, tout abandonné que je suis. Et pourquoi mon air vous dégoûte-t-il tant? Et la pauvre folle se mit soudain à pleurer. Le capitaine se précipita auprès d'elle. Maman, ma petite maman, ma chère colombe, assez. T'es pas abandonnée, tout le monde t'aime, tout le monde t'adore. Et il recommença à lui baiser les mains et à lui caresser le visage. Puis il prit la serviette et il essuya prestement des larmes de la folle. Alexeï crut même voir qu'il pleurait aussi. « Eh bien, avez-vous vu, avez-vous entendu ?» lui disait-il en lui montrant de la main la pauvre insensée. « Je vois, j'entends, » murmura Alexeï. « Papa, papa, voyons avec lui, mais laisse-le donc, papa !» s'écria tout à coup le gamin en se soulevant sur son lit et en regardant son père avec des yeux enflammés. « Mais cessez donc à la fin de faire ainsi le bouffon et de faire montre de vos manières stupides qui jamais n'aboutissent à rien !» s'écria Varvara Nikolaïevna, mise cette fois hors d'elle-même, elle frappa le parquet du pied. « C'est bien que vous vous soyez fâché, Varvara Nikolaïevna. Je vais tout de suite vous satisfaire. Eh bien, mettez votre petit chapeau, Alexeï Fiodorovitch. Je prendrai moi ma casquette et nous sortirons. J'ai un petit mot à vous dire, très sérieux, seulement pas ici. Cette demoiselle assise là est ma fille, Nina Nikolaïevna. J'ai oublié de vous la présenter. C'est un ange de Dieu et en chair qui est venu chez nous, pauvre mortel. Pouvez-vous seulement comprendre cela?
Voyez-vous comme il tremble, on dirait qu'il est pris d'épilepsie, murmura indignée Varvara Nikolaïevna.
Et celle-ci, qui frappe du pied et qui tout à l'heure me traitait de paillasse, c'est aussi un ange de Dieu en chair. Elle avait raison de me traiter ainsi. Mais alors maintenant, Alexeï Fedorovitch, il faut en finir.
Et prenant Alexeï par la main, il le conduisit jusque dans la rue.